La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
La presse suédoise espère élucider dans les prochaines heures un mystère qui la hante depuis 34 ans.
Oui, un mystère qui porte un nom et qui a un visage, ceux d'Olof Palme. Premier ministre social-démocrate de la Suède de 1982 à 1986, jusqu'à ce soir de 28 février 1986, donc, où c'est The Guardian qui nous rappelle les faits. Il rentrait du cinéma avec sa femme en pleine rue, en plein centre de Stockholm, sans garde du corps, comme le couple en avait pris l'habitude, pour ne pas se couper de la vraie vie des vrais Suédois. Ils allaient donc prendre le métro, Olof Palme et sa femme, quand un homme, grand, s'est approché d'eux par derrière. Il a tué le Premier ministre d'une balle de Magnum dans le dos, le laissant mort sur le trottoir dans une mare de sang. Le tireur, lui, n'a pas de visage, et c'est bien le problème. Le soir du 28 février 1986, il a disparu comme par magie, s'est fondu, dans le décor de Stockholm la nuit, et jamais l'arme du crime n'a pu être retrouvée jusque-là. 34 ans donc que la police et que tous les médias suédois compte s'échine à résoudre le mystère Olof Palme. C'est même devenu une obsession nationale, telle que l'a décrit The Guardian. Le meurtre a tellement ébranlé la société suédoise de l'époque, laquelle se croyait faussement protégée des dangers du monde, que l'on a donné un nom scientifique à la dépression générale qui s'est emparée du pays, la Palmesjukdom. Parmi ces symptômes, on retient surtout cette frénésie à avouer à la police qu'on est soi-même l'assassin du Premier ministre, pas moins de 180 aveux spontanés en 34 ans, et aucun n'était sérieux. Au total, reprend l'Expressen de Stockholm, plus de 10 000 témoins ont été interrogés. De très nombreuses pistes ont été suivies, creusées, abandonnées, puis réexplorées. Elles ont mené à accuser successivement un commerçant voisin de la scène du crime, un toxicomane qui passait par là, des ennemis politiques suédois, mais aussi la guérilla kurde du PKK, les services secrets sud-africains, on va y revenir, ou même des intermédiaires véreux à un contrat d'armement passé entre l'Inde et un marchand de canons suédois, contrat assorti de rétrocommission qui aurait été découverte par le Premier ministre.
Oui, enfin, tout cela, Camille, ce sont à ce stade des hypothèses, alors des hypothèses plus ou moins conspirationnistes, mais est-ce que la justice suédoise a assemblé quelques certitudes tout de même dans ce dossier ?
Eh bien, très peu, à vrai dire, poursuit l'Expressen, sinon de fausses pistes et des impasses. Ceux qui ont été soupçonnés nommément, notamment un homme condamné à la prison à vie en 1987, puis libéré au bout de 3 mois faute de preuves, tous sont morts aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien demain que l'on devrait connaître le fin mot de cette affaire. Demain, s'enthousiasme le grand quotidien suédois Aftonbladet, le procureur spécial en charge de l'enquête va rendre ses conclusions. Soit il classe l'affaire faute de nouveaux éléments, ou parce que les suspects sont décédés, soit il lance des poursuites. Le dénouement est proche, d'autant, comme l'affirment ce matin tous les journaux en Suède, que l'arme du crime aurait enfin été retrouvée. Elle pourrait permettre d'identifier une bonne fois pour toutes celui ou celle qui a tué Olof Palme il y a 34 ans, sauf que, prévient l'Aftonbladet, eh bien, vu le temps qui a passé depuis le meurtre, il y a de fortes chances que ce soit un mort qui soit désigné comme coupable et donc que le moment du dévoilement tant attendu soit aussi celui de l'épilogue pour ce grand mystère national.
Alors, un mystère qui avait passionné, ce n'est d'ailleurs pas étonnant, le grand auteur de romans policiers suédois, Stieg Larsson.
Oui, c'est ce que nous raconte The Guardian. L'auteur de la série Millennium, entre autres, a lui aussi été obsédé pendant toute sa vie par l'affaire Olof Palme, au point de s'en inspirer pour plusieurs de ses livres. Larsson, comme The Guardian d'ailleurs, penchait pour la piste des services secrets sud-africains. Un assassinat politique qui aurait été commandité par le régime de l'apartheid dont Olof Palme était l'un des plus éloquents dénonciateurs à l'époque sur la scène internationale. Au début du mois de mars, les enquêteurs suédois se sont rendus en Afrique du Sud, où ils ont reçu de la part de la justice sud-africaine un mystérieux dossier portant le nom de Palme. Est-ce que c'est ce dossier qui a permis de boucler l'affaire ? Eh bien, on le saura demain, mercredi. Alors en attendant, les journaux de Pretoria à Stockholm, en passant par Londres et New Delhi, se délectent une dernière fois de toutes les pistes possibles et imaginables, comme s'il fallait jouir une dernière fois du mystère avant que la terne vérité judiciaire ne vienne tout gâcher.
Alors un autre qui a un rapport un peu compliqué avec la vérité et la transparence, c'est Jair Bolsonaro au Brésil.
Et oui, le président brésilien d'extrême droite fait face avec son pays au pic de contamination à la Covid-19. Les chiffres sont terribles. Le Brésil, en quelques jours, est devenu le deuxième pays au monde en nombre de cas détectés et de morts liés à la pandémie, juste derrière les États-Unis. Jair Bolsonaro, qui a toujours, on le sait, minimisé la menace du coronavirus, qui a refusé pendant très longtemps les mesures de confinement, porte, selon le New York Times, une très grande responsabilité dans cette catastrophe sanitaire en train de frapper son pays. Mais quand des journalistes l'interrogent, Jair Bolsonaro sur ce sujet, eh bien voilà ce qu'il répond. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et ça ne s'arrête pas là. Depuis la fin de la semaine dernière, le gouvernement Bolsonaro a décidé de restreindre l'accès du public et des médias aux données sanitaires officielles sur l'épidémie. En particulier, le nombre total de morts, autour de 37 000. Le chiffre qui est scruté dans le monde entier pour prendre la mesure de la situation à un moment précis. Quand les informations ne vous plaisent pas, donc cachez-les. Voilà apparemment la logique de Jair Bolsonaro, dont le ministre de la Santé, nous dit le groupe de presse Globo, a encore modifié ce lundi son mode de comptage quotidien. Le nombre officiel est ridiculement bas par rapport au jour précédent et il n'est communiqué que par jour et par région du Brésil, plus jamais en nombre cumulé globaux et significatif. Alors, pour continuer à informer correctement les Brésiliens, les grands médias indépendants que sont la Folha ou l'Estadão de São Paulo, le groupe Globo, UOL et Extra ont décidé de collaborer pour récolter ensemble les vraies données épidémiologiques transparentes auprès des agences locales de santé pour les agréger et les rendre publiques. L'initiative est sans précédent, mais le journalisme doit jouer son rôle au Brésil, surtout face à une telle crise où une information honnête et fiable peut sauver des vies. Voilà la profession de foi des journaux partenaires. On ne peut pas, disent-ils enfin, laisser le Brésil plonger comme un avion sans pilote dans la tempête. Au moins, eux ont trouvé leur réponse à cette question posée par le pilote lui-même. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.